les débuts de la Réforme. Au début des discussions, Léon X n'attacha que peu d'importance à l'action de Luther. Rome ne commença à s'en inquiéter qu'en 1518. Il envoya à Augsbourg le cardinal Cajetan, un légat extrêmement savant et d'un caractère conciliant. Tant que Luther ne voulait pas se séparer de l'Église, le cardinal lui disait « Si vous croyez à tout ce que l'Église enseigne, déclarez votre soumission et le mot révocation n'a que six lettres. » Le mot révoco, pardon, n'a que six lettres. Martin Luther refusa. En 1519, il fit paraître un pamphlet, « La captivité de Babylone », dans lequel il représentait le pape sous les traits d'un despote établissant le règne d'une foi violente succédant à un régime de douceur. Luther disait « Nous sommes tous prêtres, la grâce est donnée à tous pour être en rapport direct avec le Christ. Nous n'avons pas besoin de dispensateurs de grâce. » C'est très curieux ce slogan « Nous sommes tous prêtres », je l'ai entendu dernièrement, mais passons. Luther sollicitait un patriotisme allemand, voulant dresser sa nation contre Rome pour des raisons surtout politiques. En 1520, Rome fit paraître une bulle que Luther brûla en public, dont il jeta les cendres à l'eau. Luther voyait l'Église comme un obstacle, alors que saint Thomas et saint Augustin y voyaient une tutrice, une servante dont le rôle est de nous aider. En 1521, eut lieu la diète de Worms sous la présidence de Charles Quint. Charles Quint avait d'autres soucis. Il cherchait entre autres à ressusciter la Lotharingie, cette partie centrale de l'empire de Charlemagne découpée en 813. Il pensait à la Lorraine, à la Champagne, à la Bourgogne, à l'ancien royaume d'Arles, mais il s'est toujours dit protecteur de la vraie foi et resta toujours un fervent catholique. Notons que si l'Allemagne du Nord et celle de l'Est ont viré au protestantisme, la Bavière et l'Autriche restèrent toujours profondément catholiques. Benoît XVI est issu d'une longue tradition. Au cours de la diète de Worms, Luther rompit complètement avec l'Église. Son confesseur Staupitz lui dit alors « Que fais-tu de l'humilité ?» Luther réagit en disant « Moi, j'aime ce que l'on est. » L'orgueil prenait le dessus. Plusieurs de ses amis de tendance mystique se retirèrent. Luther ne voulait pas détruire la foi, mais il proclamait la nécessité de la foi seule et l'inefficacité des sacrements. « Entre le Christ et moi, personne, disait-il. Il en appelait à la seule autorité de la Bible, mais avec le libre examen, chacun pouvant l'interpréter à sa guise. Est-ce vraiment un progrès ? » Au même moment, saint Ignace prêchait « Les justes forment une grande nation, unie par l'obéissance et par l'amour. » C'est une autre atmosphère. Après la diète de Worms où Luther fut condamné, d'autres diètes se succédèrent, dont une à Spire en 1529, au cours de laquelle Charles Quint a proscrit des partisans de Luther qui protestèrent contre les décisions de l'Assemblée. On les désigna alors sous le nom de protestants, un adjectif qu'ils gardent encore aujourd'hui. L'électeur de Saxe, Frédéric dit le Sage, fut pour Luther un ami puissant. Il favorisa la réforme et en profita pour affermir son pouvoir, en particulier en s'emparant des biens du clergé, comme le firent les landgraves de Hesse, de Brandebourg, puis les rois de Danemark et de Suède. On doit toujours un avantage à la réforme. Dans ces régions, Luther était très populaire, surtout auprès de la petite noblesse qui s'adjugeait les biens du clergé. En 1524, le grand maître de l'ordre teutonique s'appropria les biens de l'Église et fonda le royaume de Prusse autour de Königsberg, aujourd'hui appelé Kaliningrad. On ne peut que constater l'importance du soutien de beaucoup de puissances politiques dans l'essor de la réforme, qui cherchait à diminuer le pouvoir du pape comme souverain temporel. La puissance politique du pape voulue par Charlemagne permit à l'Église de garder son indépendance lors des invasions normandes et musulmanes, et face à la puissance byzantine. Mais au XVIe siècle, il devint un simple royaume mêlé à des luttes avec d'autres royaumes chrétiens, notamment l'Autriche, l'Espagne et la France, ainsi qu'à de multiples principautés italiennes. De plus, quelques ordres religieux étaient devenus très riches, ce qui attirait les appétits matériels. C'est ainsi que Charles Quint, on disait le moine est pauvre mais l'abbaye est riche. C'est ainsi que Charles Quint, catholique romain, fut amené à ménager les protestants et en même temps attirer le pape contre la France, pendant il est vrai que François Ier se rapprochait du sultan. La politique et la religion font de curieux ménages. François Ier puis Richelieu tentaient d'étouffer la réforme chez eux, mais ils s'alliaient volontiers aux protestants étrangers contre les catholiques impériaux ou espagnols. En 1529, alors que les Turcs assiégeaient Vienne, Luther aurait dit « Après tout, les Turcs valent mieux que le pape. Ils envoient les âmes au ciel, avec les houris probablement, alors que le pape les envoie en enfer. » Luther finit quand même par s'éloigner de cette curieuse position. En 1521, l'électeur de Saxe fit enlever Luther afin de le mettre en sécurité contre les troupes de Charles Quint. Il le fit conduire à la forteresse de la Wartburg. Il ne meurt pas inoccupé. Il traduisit la Bible. Luther aimait la langue allemande. Il en fit une langue littéraire, comme on me l'expliquait à l'école, en recomposant les mots savants avec des racines propres à sa langue. Décider vient de entscheiden, décider. Il y a bien d'autres mots comme ça. Recevoir, persipérer devient faire nehmen, séduire devient faire führen, etc. C'est à lui que nous devons, à Luther, que nous devons Goethe et Schiller. Il fuyait les néologismes prétentieux, n'acceptait que ceux pouvant être compris de sa chère Catherine. La traduction de la Bible fut une arme puissante entre ses mains, car elle y insérait évidemment ses idées. On le revoit encore de nos jours. La loi n'est destinée, selon lui, qu'à convaincre l'homme de son impuissance, mais il ne faut pas oublier que le Christ n'est pas venu abolir, mais accomplir. On ne saurait déclarer certaines parties à rejeter. On peut donc reprocher à Luther d'avoir fait un tri, par exemple en supprimant le livre des Maccabées qui prône les prières pour les âmes du purgatoire et l'épître de Saint Jacques qui expose la nécessité des œuvres. Elles sont exclues de la Bible protestante. Luther dit que la source des évangiles est dans saint Paul, peut-être, mais qu'il nous soit permis que pour essentiel que soit saint Paul, il n'est pas le seul à avoir parlé du Christ sur terre, et qu'il a su par des traditions. Parmi les propositions de la réforme, il y a le rejet du sacrifice de la messe dont il cherche la raison dans l'Épître aux Hébreux. Nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps du Christ une fois pour toutes. Mais cela n'empêche pas de faire ceci en mémoire de moi. La messe est le renouvellement de cette oblation du corps du Christ comme il l'a demandé. Et soutenir que les morts ne sont plus rien pour nous, comme le professent les calvinistes, revient à professer qu'un amour véritable sur cette terre disparaîtra en fumée. Enfin, Luther élimine les sacrements puisque la foi seule suffit. On ne parle plus de la Sainte Vierge. C'est un peu comme un enfant de 5 ans qui sortirait dans la rue en proclamant « je fais ce que je veux ». Éliminer les aides que Dieu nous fournit et à bien considérer d'un orgueil d'une suffisance sans borne. L'enfant de 5 ans aurait bien pourtant besoin d'une main secourable rien que pour traverser la rue. Luther eut à faire face à plusieurs débordements de ses disciples. L'un d'eux voyait des idoles dans les images des saints alors que Luther appréciait les arts. Il aimait Dürer. Karl Stadt prescrivait de détruire les idoles, mais Luther réagit violemment. De nos jours, il y a une nette différence entre les temples calvinistes où il ne reste que très peu de choses et les temples luthériens où l'on peut encore contempler de très belles statues. Je pense à la Norvège, à la Suède et à certaines parties de l'Allemagne. Un incident plus terrible fut la guerre des paysans. Les paysans de Franconie et de Swab s'appuyèrent sur Luther pour se révolter contre une certaine tyrannie seigneuriale. Luther les a soutenus dans un réquisitoire violent, tout en disant ils ont en même temps raison et tort de s'en prendre à l'autorité. Bossuet fit remarquer que 100 ans plus tard, on ne laisse plus rien aménager quand on permet de se rendre maître de la religion. Les paysans furent écrasés, ce qui attrista fortement Luther, qui ne pouvait se disculper complètement des conséquences de sa doctrine. Un autre cas douloureux fut celui de Jean de Leyde, un Hollandais sympathisant de la Réforme, qui croyait au retour prochain du Christ et se fit reconnaître roi de la nouvelle Sion. Il se révolta, soutint un siège contre sa province et finit sur un bûcher. Ce n'était pas la paix qui s'était apportée. En 1525, Luther décida de se marier officiellement, ne serait-ce que pour faire enrager le pape. Son ami fidèle Mélenchon, de son vrai nom Schwarzerd, mais c'était un helléniste convaincu, il avait traduit Schwarzheide en Mélenchon, c'est-à-dire en grec, la terre noire. Un homme modéré, ce Mélenchon est très attachant, tenta de modérer les tendances extrêmes de Luther, de mettre un frein à ses excès, mais de manière insuffisante. Le nom de protestant donné aux réformés en 1529 est caractéristique. Les réformés sont liés par la protestation. Il leur est difficile de garder une unité. Ils ont dit « la réforme est une vraie Pentecôte où la religion parle toutes les langues ». Peut-être, mais non le même langage. Nous sommes loin de l'évangile de saint Jean, qu'il soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. En cette année de la miséricorde, prions pour le retour rapide de cette unité. Je vous souhaite un bon printemps.